Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Jeudi 24 avril, bonsoir à tous. RFI lève le voile sur la session soirée de l'info sur RFI, c'est parti. Voici ce qui vous attend au cours des trois prochaines heures. Dans 10 minutes, Accent d'Europe qui sera en Grèce pour parler d'un atelier d'éducation aux médias par la radio, on peut en dire que du bien, évidemment. Reportage à suivre également au Royaume-Uni pour évoquer un projet d'insertion par le théâtre. Dans 30 minutes, le débat du jour qui ce soir sera au chevet du Parti démocrate américain. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus audible alors que la contestation grandit à l'égard de la politique menée par le président Donald Trump? Est-ce que les démocrates sont anesthésiés? Voilà la question que nous poserons, anesthésiés suite à leur défaite à l'élection présidentielle. Est-ce que les démocrates peuvent rebondir? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à prendre la tête de la fronde anti-Trump qui progresse? Réponse à suivre. Dans une heure, le grand journal du soir, le dossier ce soir sera consacré aux tensions entre l'Inde et le Pakistan qui sont relancées après l'attaque meurtrière survenue mercredi dans le Cachemire indien. 18h30, temps universel, Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. À la une, le conflit dans l'est de la RDC et le Qatar, le Rwanda et la Belgique qui saluent une avancée après la déclaration de Kinshasa et des rebelles de l'AFC M23 en faveur d'une trêve. 19h10 TU, le décryptage. Ce soir, il sera question de financement de la transition écologique. Au cœur des discussions actuellement lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Vous saurez tout grâce à Sébastien Farcy et ses invités. Enfin, le grand reportage. Là, c'est à 19h40, temps universel. Grand reportage qui, ce soir, nous emmènera en Côte d'Ivoire sur les pistes du trafic de cacao. Voilà le programme. Mais pour l'heure, il est 17h02, temps universel. C'est le journal d'Alban Le Prince. Bonsoir Alban.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui écourte sa visite en Afrique du Sud.
Il rentre plutôt après de nouvelles frappes russes qui ont visé Kiev, la capitale ukrainienne. Le dernier bilan fait état d'au moins 12 morts, 90 blessés. De nouveaux bombardements alors que l'espoir d'un cessez-le-feu semble s'éloigner. Hier, Donald Trump, le chef d'État américain, a accusé son homologue ukrainien de ne pas suffisamment vouloir la paix en cause la question de la Crimée, territoire annexé en 2014 par la Russie, que les États-Unis jugent perdu pour l'Ukraine, Pierre-Olivier.
Une annexion très populaire chez les Russes. Vladimir Poutine décide alors d'en faire la vitrine d'une Russie conquérante. Il faut dire que la Crimée, à peu près grande comme la Belgique, offre au sud et à l'ouest un accès direct à la mer Noire, tout en étant reliée au nord à l'Ukraine et à l'est à la Russie. Cette position, en fait un territoire convoité par les deux pays, d'autant qu'avec l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou annexe aussi un vaste espace maritime, riche en hydrocarbures, et récupère le port en eau profonde de Sébastopol, qui lui permet de prendre le contrôle d'une grande partie de la mer Noire. Une porte de sortie aussi pour la marine russe vers la Méditerranée. Avec son climat agréable et ses plages, la Crimée attire également de nombreux touristes, près de 10 millions en 2021, soit 5 fois plus que sa population. Pour l'Ukraine, libérer cette péninsule est cruciale, symboliquement car c'est là qu'a commencé l'invasion russe de 2014, et militairement pour bloquer le ravitaillement des troupes russes du front sud.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président français, a estimé que la question du statut de la Crimée ne se posait pas maintenant. La vie s'est arrêtée le temps de 2 minutes aujourd'hui en Israël. Les sirènes ont retenti pour marquer la journée de la Shoah en mémoire des 6 millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Un moment fort en émotion pour le pays qui traverse l'une des périodes les plus tendues de son histoire. Le reportage à Jérusalem d'Amira Suilem.
Quelques instants avant 10 heures, une gravité s'empare des rues de Jérusalem. Puis soudain, les sirènes retentissent dans tout le pays. Tous les passants se fichent sur place. Barbe longue, kippa sur la tête et sourire malgré tout, Israël Campbell, comédien et guide au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, semble absorbé par ses pensées.
C'est un moment puissant pour l'État d'Israël. Vous savez, à Yad Vashem, on dit que l'État d'Israël existe en dépit de l'Holocauste et non pas du fait de l'Holocauste. Malgré le fait que le tiers de la population juive mondiale et les deux tiers des juifs d'Europe aient été tués. Malgré cela, on a été en mesure de créer un État, et ça, c'est beau.
C'est quoi ce nombre-là sur votre veste ?
566, c'est le nombre de jours passés en enfer par les otages.
Des otages israéliens dans tous les esprits ici. Sur un banc, deux jeunes femmes discutent.
Je m'appelle Shaked, j'ai 26 ans. On a des frères et des sœurs, 59 personnes qui subissent un holocauste tous les jours à Gaza et le monde ferme les yeux. C'est ce qui me relie à ce jour et j'espère que le monde va se réveiller et ne pas permettre à cet holocauste de perdurer.
Plusieurs ONG comme Amnesty International accusent Israël de commettre à son tour un génocide à Gaza. Les Palestiniens d'Israël, croisés ce matin, ont préféré ne pas s'exprimer sur le sens de cette journée du souvenir. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Et ce soir, l'armée israélienne appelle les habitants de deux zones du nord de Gaza à évacuer. Elle prévient qu'elle va mener une opération de nouvelles frappes alors qu'au moins 36 personnes, dont 6 membres d'une même famille, ont été tuées dans des bombardements depuis ce matin, selon la défense civile palestinienne. Le Vatican dévoile à quoi ressemblera la tombe du pape François. Le souverain pontife qui sera inhumé samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. Sa tombe sera en marbre, aura pour seule inscription Franciscus, ce qui veut dire François en latin, ainsi qu'une croix pectorale, la même qu'il portait de son vivant. Les fidèles pourront d'ailleurs y avoir accès dès dimanche matin. En attendant, ils sont déjà plus de 60 000 à lui avoir rendu hommage dans la basilique Saint-Pierre où son cercueil est exposé depuis hier matin. Emmanuel Macron, le président français, veut créer les conditions du pardon pour la colonisation de Madagascar. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État en visite sur place. Aujourd'hui, il devait restituer des restes humains. Ce sera finalement en août prochain. Il veut également engager un travail de mémoire commun. Bonsoir Sarah Teto.
Bonsoir Elvan.
En direct d'Antananarive pour RFI. Avant de reprendre l'avion, Emmanuel Macron a donc annoncé l'installation d'une commission mixte franco-malgache d'historiens pour faire la lumière sur les zones d'ombre de l'histoire coloniale française.
Oui, c'est exactement ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que les historiens malgaches l'avaient demandé et ils ont été entendus. C'est donc face à la presse, en fin d'après-midi, vous le disiez, qu'Emmanuel Macron a annoncé avoir décidé ce matin, avec son homologue, le président Andrzej Duda, de créer une commission mixte franco-malgache d'historiens. Objectif, lever le voile sur le massacre de mars 47 et sur les répressions d'insurgés au moment de la décolonisation. Les atrocités qui ont été commises à cette époque restent encore une plaie très forte dans l'histoire de Madagascar, a expliqué Emmanuel Macron. C'est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir. Fin de citation. Alors, sans plus donner de détails, le président français a donc annoncé la mise en place de travaux communs. Une déclaration, je le rappelle, qui intervient une semaine jour pour jour après l'ouverture de la commission mixte franco-haïtienne. Alors, qu'attendent les historiens malgaches de cette démarche? Et bien, surtout que la France leur ouvre les archives de la police coloniale qui devrait permettre de mieux évaluer le nombre réel de victimes des répressions, parce qu'aujourd'hui, selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts.
Merci Sarah Teto. Emmanuel Macron salue ce soir le courage des professeurs qui ont sans doute empêché d'autres drames après une attaque au couteau perpétrée ce midi dans un lycée privé de Nantes, dans l'ouest de la France. Un élève a tué l'une de ses camarades et en a blessé trois autres. Il a été interpellé. Selon Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, pas de garantie qu'un des jeunes blessés soit totalement tiré d'affaire. François Bayrou est désormais père de l'une des victimes de Notre-Dame de Bétharram, mais le Premier ministre ne le savait pas, c'est ce qu'affirme sa fille à l'occasion de la sortie d'un livre aujourd'hui. Alors que 200 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves, la députée écologiste française Cyrielle Chatelain a du mal à le croire.
Oui, moi j'ai des gros doutes sur sa sincérité, parce qu'en fait il y a des faits matériels. Ces déclarations de 96, où alors qu'on a un parent d'élève qui a tiré la sonnette d'alarme parce que son enfant a été brutalisé, il va dans l'établissement et il le défend. Il défend cet établissement, c'est-à-dire il se sert de son poids politique, de sa parole. Donc oui, il y a vraiment des doutes. Quand on voit le nombre de personnes qui finalement étaient au courant, on ne peut que douter de sa première réaction. Il dit qu'il ne savait rien.
Cette affaire pourrait, dans sa gravité, faire tomber le Premier ministre, à votre avis ?
Oui, c'est une question qui se pose très sérieusement. Je pense même que dans d'autres pays, il serait déjà tombé. On parle d'un système d'omerta, où tout a été fait, non pas pour protéger ses enfants, mais pour protéger les agresseurs. Qu'un Premier ministre soit au cœur de scandale, dans beaucoup d'autres pays, le Premier ministre aurait de lui-même rendu sa démission.
Cyrielle Chatelain, invitée de Véronique Rigolet sur RFI. Tout de suite, Accent d'Europe.